Bonjour et bienvenue en ce dimanche, troisième dimanche de l'Avent. N'hésitez pas à vous avancer parce qu'il y a quelques trous dans les rangs. Beaucoup. Alors, bienvenue ce matin. J'avais envie de vous lire un petit texte que j'ai écrit cette semaine qui résume un tout petit peu ma semaine et pour vous inviter à un moment de calme. Donc, je voulais préparer ce que je voulais dire ce matin, puis donc j'ai pris un soir, une fois que tout était terminé, les enfants au lit, la cuisine rangée, les affaires d'école prêtes pour le lendemain. Et puis voilà, alors je vous lis ça. Le temps roule et se déroule, et pour un moment, j'arrête le temps, et j'attends qu'il vienne, lui, le Seigneur. Je m'arrête, je respire. Je respire profondément, je me rends disponible. Soudain, mes pensées s'échappent. Les costumes de l'escalade sont-ils prêts? Ah mince, j'ai oublié d'envoyer l'ordre du culte à Denise. Et puis les cadeaux pour les maîtresses, est-ce que j'ai tout? Oh, la voisine a accouché, il faudrait qu'on lui achète un petit cadeau. Ah, puis il faut que je prenne en photo mes élèves pour le calendrier, pour les parents. Et puis le chou chinois, c'est juste, c'est ça qu'il fallait amener pour la soupe de l'escalade. Mais qu'est-ce que je vais faire à souper demain? Ah oui, Seigneur, pardon. Oui, oui, je suis là. Je respire, je me recentre. Et quelques secondes plus tard, mes pensées s'évadent à nouveau. Ma to-do list défile devant moi, m'angoisse. Seigneur, je n'y arriverai jamais. Quand tout à coup, une pensée me heurte. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Ce verset, je le connais bien en anglais. Be still and know that I am God. Je répète, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Dans ce verset, ce qui me surprend, c'est qu'il faut d'abord s'arrêter avant de reconnaître. Arrêtez, stop, pause, statue, on ne bouge plus. C'est la première chose qu'il faut faire. Le temps roule et se déroule, mais pour le moment, je m'arrête. Je pose mes fardeaux et je reconnais que Dieu est Dieu. Ça y est, je sens que je suis réellement disponible. C'est bon, Seigneur, je suis là.
Dieu, tu apaises mon âme.
Seigneur, merci pour le privilège que nous avons de prendre ce temps dans notre semaine à part pour toi. J'aimerais nous remettre, nous encourager à nous arrêter et à prendre ce dimanche pour reconnaître que tu es Dieu. Merci d'être avec nous, de nous accompagner durant ce culte. Amen. Je vous propose maintenant de chanter un premier chant. Nous venons dans ta présence.
Je vous invite à vous lever et à chanter avec nous. Nous venons dans ta présence pour nous rappeler qu'on est là pour se retrouver les uns avec les autres, pour louer son grand nom, pour s'édifier les uns les autres et pour lui rendre gloire.
Chanter tes louanges et notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant. L'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur. L'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Oh, tu es le Créateur. Ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi.
J'invite à vous asseoir.
Marie, je t'observe depuis un certain temps. Que regardes-tu là-haut, sous le toit de la halle du marché?
C'est Joseph et Jésus qui ont réalisé cette charpente. Je me rappelle encore les repas animés, les discussions interminables sur les calculs d'angle, d'épaisseur, les essences de bois utilisées. Tu vois, cette construction a tenu et elle m'aide à apaiser mon cœur.
Mais Marie, tu es la mère de Jésus, le Messie, de Jacques. Tout le monde te connaît à Nazareth. Tu devrais être fière.
Noémie, tu ne comprends pas. Pourtant, tu as été mère, toi aussi. Les enfants, et particulièrement Jésus, il a beau avoir 30 ans, je viens de le perdre. Il est sur les routes avec un groupe de jeunes gens. Il défie les autorités religieuses. Et pour ce qui est du Messie, trop peu de personnes en sont convaincues.
Mais Jean-Baptiste en a parlé.
Oui, mais moi, ce ne sont pas ses paroles que je retiens dans ce moment de séparation. C'est...
Marie, tu exagères. Il a été parfait, ton Jésus. Bien éduqué, soumis à ses parents. Excellent dans l'analyse des situations. C'est presque un rabbin. Tu te rappelles quand vous le cherchiez à l'âge de 12 ans et qu'il était au temple? Qu'est-ce que les rabbins en ont pris?
L'année dernière, à Cana, lors des noces, j'ai senti que la séparation était consommée. Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Voilà ce qu'il m'a dit. C'était difficile à entendre. Aujourd'hui, je suis lasse et triste. Et tout ce que je gardais pour moi est ressorti là, aux noces. Depuis, je ne cesse de tourner dans tous les sens les paroles que j'ai reçues.
Marie, il faut te reprendre. De nous toutes, tu es la seule à qui un ange a parlé. La seule qui a reçu 3 mages d'Orient.
La belle affaire. Oui, l'ange m'a parlé pour me dire que j'aurai un enfant. Et conséquence de cette parole, je n'ai pas connu mon mari pendant les 9 premiers mois de notre mariage. Nous avons dû fuir en Égypte et au retour, nous avons été obligés de nous installer à Nazareth et reconstituer un réseau d'amis.
Mais c'est là que nous nous sommes connus, appréciés, aidés. C'est là que vos affaires ont prospéré.
Noémie, toi qui veux me remonter le moral, explique-moi alors ce que voulait dire Siméon au temple lors de la présentation de Jésus. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront relevées. Je ne l'ai dit à personne jusqu'à aujourd'hui. Qu'as-tu à dire sur ces paroles?
Une épée te transpercera l'âme. Ton Siméon n'y est pas allé de main morte. Et à Cana, tout est ressorti?
Oui, tout! Mais je ne pouvais pas l'exprimer. Aujourd'hui, ma colère est grande contre Dieu, les anges, les personnes qui ne comprennent pas que c'est dur d'être mère, et encore plus d'être la mère de Jésus. Pas de descendant de lui, et la peur au ventre de le savoir affrontant les grands de ce monde, et d'être seulement entouré et soutenu par des disciples de son âge.
Mais tu as vu le nombre de personnes qui le suivent. Il réalise des miracles, des guérisons. Ses discours sont courus par de grandes foules affamées de paroles et de nourriture. Marie, ressaisis-toi. Tu as engendré un puissant sage.
J'ai engendré un charpentier. Et il me quitte pour parcourir les routes et faire du bien aux autres. Alors que moi, sa mère, je souffre. Et mon cœur saigne.
Oui, il saigne, je comprends. Mais je suis là. Et je vais t'accompagner sur ce chemin de séparation. Ton fils est promis un grand avenir. Quant à toi, les siècles ne réussiront pas à effacer ton nom, ni la promesse que Dieu t'a faite. Veux-tu que je te la rappelle?
Non, Noémie, elle est gravée en moi. Regarde la charpente. Tu vois, à cet endroit précis, Les portées étaient trop grandes. Alors Jésus a eu l'idée d'y adjoindre une croix au centre. Celle-ci, me disait-il, est la clé pour sauver la charpente d'un effondrement. C'est elle que je regardais tout à l'heure.
Merci Jean-Yves Muller pour l'écriture de ce texte.
Je vous invite à chanter avec nous. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia.
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia.
J'invite maintenant les enfants à rejoindre l'école du dimanche, si vous le souhaitez. Merci aux moniteurs. Je vais vous lire le texte de l'annonce de la naissance de Jésus en Luc chapitre 1, versets 26 à 38. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie. N'aie pas peur, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta.
Marie, la Mère de Dieu, la Sainte Vierge, une icône. Si pour nous protestants et évangéliques, elle n'est pas une sainte, elle représente pour le moins le modèle par excellence de l'abnégation de soi pour se soumettre à la volonté de Dieu. Quand on se demande pourquoi Dieu l'a choisie, la réponse qu'on donne à cette question parle comme s'il avait fallu, pour répondre à l'appel de Dieu, qu'elle soit a priori différente des autres, intrinsèquement meilleure, voire parfaite. Et parce que magnifiée, son acquiescement en devient désincarné. Elle n'a pas de vécu personnel, elle n'est presque plus des nôtres. Et c'est ce modèle-là d'obéissance à Dieu qui nous est présenté. Et c'est ce modèle-là que nous avons de la peine à endosser, parce que nous sommes des êtres de chair et de sang agités d'idées et d'émotions. Et c'est ce modèle-là que je vous invite à revisiter aujourd'hui. Pour ce faire, je me suis inspirée d'un livre de Marion Muller-Collard, « L'intranquillité ». Ce livre m'a intriguée par son titre. L'intranquillité, ce n'est pas la tranquillité. Et la tranquillité, ce n'est pas la paix. La paix est plus profonde. On peut être intranquille et en paix. Personnellement, je suis plutôt intranquille. À toujours me demander, un peu comme Lorraine, comme Lorraine va vous l'expliquer tout à l'heure, si je fais juste, si je suis à ma place. Les enfants, le dérèglement de la planète, ma relation avec les autres. Je dois vous avouer que préparer un culte, c'est une grande source d'intranquillité. Négative par un côté, parce qu'elle peut paralyser mes neurones, mais aussi positive par l'excitation de trouver des perles dans la Bible. Et quand je suis intranquille, je culpabilise parce que normalement, quand on est chrétien, on devrait être en paix, on devrait être tranquille. Et si je ne le suis pas, c'est parce que ma relation avec Dieu n'est pas assez bonne, c'est parce que je n'ai pas lu assez ma Bible, parce que je n'ai pas assez prié, parce que je ne sais pas mettre Dieu à la première place. Alors je me suis dit que ce livre allait peut-être m'aider. La tranquillité, c'est quand tout roule, quand ma vie ronronne, sans rien qui vienne me remettre en question, me déranger. Dans mes contacts avec les gens, je me sens appréciée, mes enfants sont à peu près sages, j'ai de bons résultats, mon patron et mes collègues et mes profs me respectent. La tranquillité est confortable, elle m'invite à me reposer, à arrêter ma course, à savourer l'instant présent. C'est comme une bouffée d'air frais ou chaud suivant la saison, où je me souviens que je suis aimée, que j'ai de la valeur et que rien n'est perdu. Mais l'intranquillité, c'est le petit caillou dans ma chaussure, c'est les questions, les doutes, les révoltes, les petites voix intérieures qui me minent. L'intranquillité est inconfortable. Elle pose des questions et demande des réponses. Elle n'est pas d'accord et veut du changement. Elle s'insurge et appelle de l'action. Elle est mal et réclame des solutions. Avec elle, je ne m'arrête jamais. Lorraine va nous en donner un exemple.
La vie est un long fleuve tranquille. Quand j'étais petite, je vivais pleinement cette tranquillité. Je faisais ce que l'on me demandait. Comme ça, tout le monde était content. Mes parents, mes enseignants et moi-même. Je n'aimais pas les conflits. Je rejetais toute confrontation que je détestais. Il ne fallait surtout pas que je provoque la colère chez les autres. J'aimais la justice. Je me mettais du côté des faibles. J'étais sage. Je faisais tout juste. Je plaisais à tout le monde. J'en avais l'impression, en tout cas. Tout me paraissait plutôt simple et rassurant dans mon petit monde. La vie ainsi était un long fleuve tranquille. Mais, les années passant, l'exigence que je me mettais moi toute seule devenait de plus en plus importante. Plaire à tout le monde, aux parents, aux copains, à Dieu, ne pas décevoir, être sympa, être cool, être une bonne chrétienne, lire sa Bible tous les jours, prier tous les jours, ne pas émettre de jugement, demander pardon pour les 5 péchés du jour, entendre la voix de Dieu, être une bonne enseignante, être la meilleure enseignante, être une bonne maman, être une maman un peu meilleure que les autres, ne pas décevoir ses enfants, répondre à leurs besoins, ne pas décevoir son époux, être une épouse aimante, compréhensive et parfaite, être juste, être ouverte, être à l'écoute, bref, être irréprochable, tendre vers la perfection. Ma vie est devenue de moins en moins tranquille, de plus en plus harassante, fatigante et étouffante. À vouloir tout bien faire tout le temps, on s'oublie et on ne sait plus trop qui on est. Le perfectionnisme, la comparaison et la culpabilité me visitaient régulièrement. Pendant plus d'une quinzaine d'années, j'ai vécu l'intranquillité, mais une intranquillité emprisonnante. Puis, il a fallu se libérer. Il n'y avait plus le choix. Sinon, la cocotte allait exploser. Des rencontres, des lectures m'ont permis d'avancer. Comme ce livre de la fabuleuse Hélène Bonhomme, au titre questionnant, Petit guide de l'imperfection heureuse. J'ai dû déconstruire les remparts que j'avais moi-même érigés depuis l'enfance, me détacher de fausses croyances, en re-questionner d'autres. Ce cheminement m'a fait passer par le doute, par la colère et par l'envie de tout balancer. Mais enfin, sur ce chemin que je parcours encore, mon fardeau s'est déjà allégé. Je me découvre, je m'accepte petit à petit. Il y a encore du chemin devant moi. D'ailleurs, l'intranquillité m'accompagne toujours. Affirmer mes désaccords, mes envies, assumer mes humeurs et ce qu'elles peuvent provoquer chez les autres, oser me dire « c'est pas grave quand une activité n'a pas bien fonctionné en classe avec mes élèves », accepter la déception de mes enfants, de mon mari, tant de situations qui me plongent dans l'inconfort du lâcher-prise, de l'intranquillité. Mais cette fois, je goûte à la grâce. Je découvre mon juste moi. Et non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, toujours pas. Je sais maintenant qu'il est vain d'essayer de contrer l'intranquillité, car elle fait partie de ma condition humaine. Dans la maladie, les changements de programme, les relations aux autres, la maternité, les deuils, les doutes, elle est là. Et je ne peux rien y faire. Par contre, j'ai la paix, car je sais que Dieu le Père guide l'enfant que je suis et veille avec bienveillance.
Je pense que plusieurs d'entre nous se sont retrouvés dans ce que Lorraine a dit. En tout cas, tu m'as rejoint dans beaucoup de plans, sur beaucoup de choses. C'est vrai, cette intranquillité est dérangeante et on essaye toujours de la refouler et de la combattre. Ce serait bien plus simple si Dieu parlait à haute voix et nous disait clairement « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ma volonté elle est là, j'aimerais que tu ailles ici ». Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Avec Dieu, c'est dans une relation, c'est dans la confiance. Avant l'annonce de l'ange et le oui de Marie, la vie de Marie et Joseph était toute tracée. Se marier, exercer son métier, avoir une famille, ils en connaissaient les grandes lignes. Le oui de Marie et l'acceptation de Joseph à être le père de l'enfant qui allait naître les font sortir de ces rails-là et les précipitent sur les grandes routes de l'histoire de l'humanité, tant il est vrai que ce que Jésus a été et a fait, nul autre avant lui ne l'avait fait. Il y a un avant et un après Jésus. Marie et Joseph ont eu l'audace, l'inconscience de dire oui, de sortir de la tranquillité pour aller vers l'intranquillité. Merci à eux. Mais ce n'a pas été facile. Comment Marie l'a-t-elle vécu? Sous la plume de Jean-Yves, Marie prend vie. Il l'a imaginée, mais on en trouve des traces dans la Bible. Il y a eu d'abord l'ange. Nous, les humains, nous sommes beaucoup dans le faire, dans l'effort. On a l'impression qu'on doit fabriquer, un peu faire des efforts pour arriver à la rencontre de Dieu, à être rencontré par Dieu. Mais souvent, c'est tout simple, Dieu est là et nous ne le savons pas, nous le cherchons ailleurs. Marie n'a rien demandé, l'ange est là. Un ange, c'est un messager qui vient dire quelque chose de la part de Dieu. Est-ce qu'elle l'a vu de ses yeux? Était-ce une vision? Ou bien le mot ange est-il une façon de nommer une présence de Dieu particulière, très très proche, consciente, vécue dans toute notre personne? Si convaincante par son évocation, c'est difficile à traduire comme impression, qu'on ne peut douter que Dieu est là. C'est très fort, c'est comme si Dieu était vraiment, vraiment là. Ou l'inconcevable, tout à coup, nous devient possible, envisageable. Mais Marie ne dit pas oui tout de suite. Marie reste Marie, l'ange reste l'ange. Marie n'est pas habitée par une volonté plus forte que la sienne qui lui ferait faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Elle garde sa capacité de raisonnement, sa liberté. C'est peut-être ça qui lui fait dire oui. C'est que dans cette présence, elle se sent vraiment elle, Marie, connue de Dieu. L'ange la connaît par son nom, il la rassure, l'écoute, la respecte, prend en compte sa question. Je ne sais pas ce qu'elle a retenu du discours de l'ange sur ce que serait ce fils. Il semble en tout cas que ce ne soit pas la perspective de mettre au monde quelqu'un qui aura une destinée hors du commun qui lui fait dire oui. Marie est toute simple, très prosaïque. Elle a les pieds sur terre. Comment cela pourra-t-il se faire, puisque je n'ai jamais couché avec un homme? L'ange lui parle de Saint-Esprit et d'ombre. Difficile à comprendre. Mais il lui parle aussi d'Élisabeth. Et là, c'est du concret. Il y a une autre femme qui vit quelque chose hors du commun. Si Élisabeth le vit, c'est que c'est possible. Peut-être est-ce là, avec tout le reste de ce que l'ange a dit, et cette présence que se fait le déclic, l'ouverture vers une possible réalité. Elle dit oui, et l'ange la quitte. Mais elle retombe sur terre, et l'intranquillité la prend. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Enceinte, sans être mariée, par la vertu du Saint-Esprit, mais qui va me croire? ce qui lui est promis est contre les lois physiologiques et les lois morales de la religion. Elle risque le rejet, la lapidation, une paria, elle sera une paria. Elle s'empresse d'aller chez sa cousine. Pour moi, elle s'enfuit, elle va se cacher chez quelqu'un qui peut la comprendre. Mais l'accueil d'Elisabeth est formidable. Dès qu'elle arrive, elle lui dit « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » Elle valide la parole, Elisabeth valide la parole qu'elle est de l'ange que Marie a reçue. Puis Marie a accouché. Elle a élevé Jésus le mieux qu'elle a pu dans les traditions en veillant sur lui. Elle a dû le laisser aller son chemin, si différent de celui qu'elle aurait voulu pour son enfant. Souvent, elle n'a pas compris. Elle a été dérangée, remise en question, blessée. Bousculée dans ses convictions, dans ce qu'elle avait appris, elle a dû désapprendre pour faire de la place à la nouveauté qu'apportait Jésus. Les évangiles nous rapportent quelques épisodes difficiles de sa relation avec Jésus, que Jean-Yves a aussi évoqué, Jésus au temple à 12 ans, quand ses parents s'inquiètent parce que pendant 3 jours, ils l'ont cherché, il dit « Mais pourquoi me cherchiez-vous? Vous ne savez pas que je devais m'occuper des affaires de mon père ?» Et eux, Joseph et Marie, ils n'ont rien compris. Et aux noces de Cana, c'est vrai. Et puis il y a aussi une fois où la foule était si nombreuse que Jésus ne pouvait même plus prendre ses repas. Sa parenté l'a cru fou. Marie et ses frères, sa mère et ses frères ont voulu le voir. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il a regardé autour de lui tous ceux qui étaient assis. Et il a dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon père, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Pas facile à entendre quand on tient à son fils. Et qu'il est là, un fils, un enfant, c'est la chair de notre chair. Elle a accompagné Jésus jusqu'à la croix, a été témoin du grand chamboulement de l'histoire qu'ont provoqué la mort et la résurrection de son fils, le Fils du Très-Haut. Si Marie et Joseph n'avaient pas dit oui, tout cela n'aurait pas existé. Est-ce que cela ne valait pas la peine? À la croix, Jésus a rejoint sa mère dans sa souffrance de mère. Il la confiera à Jean. Comment Marie a-t-elle tenu? Comment a-t-elle avancé? Dieu ne nous laisse pas seuls dans l'intranquillité. Il nous accompagne. Il n'a pas abandonné Marie. Il y a eu des paroles difficiles à entendre, mais aussi des paroles qui lui ont fait du bien. Celle de l'ange qui lui avait dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur, Marie. » Il y a eu Élisabeth, il y a eu Joseph, qui en acceptant d'être le fils, d'être le père de Jésus, lui a donné une légitimité et l'a prise sous sa protection. Les bergers qui lui ont raconté tout ce que l'ange leur avait dit, les mages venus de si loin, guidés par une étoile avec des cadeaux dignes d'un roi, et toutes les personnes à qui Jésus a fait du bien. L'évangile de Luc nous dit qu'elle gardait le souvenir de tout ce que lui avaient dit les bergers et y repensait souvent. Elle devait repasser dans sa mémoire aussi toutes ces paroles qui avaient compté pour elle, qu'il avait aidé à tenir à distance les nuages noirs de l'intranquillité. Peut-être y en avait-il une parmi elles qui était plus importante que les autres. Jésus aussi a connu l'intranquillité dans les nombreux contacts qu'il a eus avec les autres. Tous n'ont de loin pas été faciles, pas sans remise en question même pour lui. Les autres sont un grand facteur d'intranquillité. On ne sort pas indemne d'une rencontre avec quelqu'un. Bon, vous direz, pour lui, c'était facile, il était le Fils de Dieu. Mais ce n'était pas si facile que ça, Souvent, il se retirait à l'écart pour prier. Je pense qu'il faisait comme Marie. Il repassait dans sa mémoire une parole qui l'aidait à tenir le coup. Cette parole, il l'avait reçue à son baptême. « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » C'était son identité, le fondement de sa personne, le plancher sûr sous ses pieds. La parole qui lui faisait tenir le cap, il n'a jamais dévié, il est toujours resté le fils de Dieu, il n'a jamais pris la place de Dieu, il n'a jamais utilisé des pouvoirs spéciaux pour se faciliter la vie. C'est ancré dans cette parole qu'il a affronté l'humiliation et la mort. J'ai aimé le livre de Marion Muller-Collard parce qu'elle raconte la vie à l'intérieur de nous telle qu'elle est. Elle nous l'a fait aimer, cette vie-là, avec tous ses soubresauts. J'aime aussi beaucoup sa manière d'écrire. Qui peut dire qu'il n'a jamais été intranquille? L'intranquillité n'est pas un péché. Comme l'a dit Lorraine, elle fait partie de nous-mêmes. C'est une donnée intrinsèque de notre humanité. L'intranquillité peut nous faire faire des erreurs. Donc il ne s'agit pas de la suivre aveuglément, il s'agit de discerner dans ce qui bouge en nous, ce qui nous fait aller vers l'amour et la vie, et ce qui nous conduit vers une impasse. Sans l'intranquillité, peut-être en serions-nous encore à l'âge de Pierre. Peut-être n'y aurait-il pas eu le CERN. N'y aurait-il pas eu de Martin Luther pour initier la réforme, de Rosa Parks en Alabama pour lutter pour les droits civiques, de Marion Muller-Collard, d'Hélène Bonhomme. Peut-être qu'aucun de nous ne serait là ce matin en attente d'une parole qui nous aide dans notre vie de tous les jours. Mieux vaut l'admettre et faire de l'intranquillité notre ami, notre allié, pour continuer à être bien vivants sur cette terre telle que nous sommes. Peut-être nous faut-il accepter que la vie avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille, mais une grande aventure où nous allons de découverte en découverte, jusqu'à la fin. La tranquillité n'est pas la paix, mais on peut être intranquille et dans la paix. Quelle était la parole de Marie qui l'aidait à tenir le coup? Et pour Jésus, quelle était la parole qui lui disait qui il était et qui l'a soutenu jusqu'à la fin? N'aurions-nous pas chacun une parole, une idée qui à chaque étape de notre vie nous aide à tenir le cap, qui fait fuir nos fantômes et nous donne de la place pour réfléchir sainement quand la tranquillité nous joue des tours? Je vous invite à un moment de silence pour y réfléchir. Seigneur notre Dieu, Nous venons chacun auprès de toi avec tout ce que nous sommes, avec une prière. Seigneur, que nous ne savons plus à quel saint nous vouer, aide-nous à nous souvenir d'une idée, d'une parole qui nous aide à voir clair, à ne plus tourner en rond. Seigneur notre Dieu, tu es venu sur la terre en Jésus-Christ. Tu as voulu être l'un des nôtres. Merci. Tu es le compagnon de nos jours. Nous te voulons toujours avec nous. Merci. Amen. Nous retrouvons un extrait du texte de Jean-Yves. Marie a cheminé. Noémie et elle ont continué à se retrouver sous la croix de la charpente. Des chouettes y ont fait leur nid, des petits sont nés. Ils aident Marie à accepter l'envol de son fils. Petit à petit, Marie comprend qui est Jésus. Elle voit que les promesses faites à Ésaïe sont en train de se réaliser à travers lui. Elle aurait voulu voir l'envol de ses chouettes, mais les Romains ont détruit la charpente. Pressée de voir et d'entendre ce que Jésus est devenu, elle part le rejoindre. Nous la retrouvons à son retour avec son amie Noémie.
Marie, je suis heureuse de te revoir. Ici, les nouvelles de Jésus fusent de partout et sont contradictoires. Mon mari a peur et ne sait plus quoi penser de tout ce qui se dit. Et...
Noémie, j'ai vu ce que Dieu a réalisé pour les hommes au travers de Jésus. Ce voyage m'a montré la voie à suivre pour être sauvée.
C'est quoi ce charabia ? Ton fils est mort et à ce qu'il paraît, il est même ressuscité. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est que tu aurais découvert le chemin pour être sauvée. C'est tout ?
Oui, Noémie. Je t'ai donné la conclusion de mon voyage. Tu veux savoir si j'ai souffert de sa mort ? Oui, comme un glaive qui me transpercerait. Oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai maudit ce jour. Oui, j'ai douté. Pourquoi Dieu me donne-t-il un enfant, miraculeusement, et me le reprend ? Oui, Noémie, j'ai été dévastée. Mais sur la croix, Jésus m'a donné un fils. Un de ses disciples, qu'il aimait bien. Cela m'a bouleversée. Dans sa souffrance, il a posé son regard sur moi. Qui fera cela dans une situation de mort imminente? Qui, si ce n'est le Fils de Dieu?
Et la suite? La résurrection, c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Jésus a vaincu la mort. Des femmes qui l'ont suivi depuis le départ l'ont attesté. Tu vas sourire. Plusieurs d'entre elles s'appelaient Marie, comme moi. Elles et d'autres disciples ont pu parler avec Jésus. J'ai rejoint ce groupe et logé chez mon fils d'adoption.
Mais ton fils Jésus t'a parlé ?
Noémie ? N'est-ce pas toi qui me disais il y a quelque temps que Jésus m'avait été prêté par Dieu, que cet enfant était le fruit de l'Esprit, et que l'ange qui m'avait visité lui avait même donné son prénom? Eh bien, tu vois, ce parcours de mère était bien singulier.
Mais qu'est-ce qui a déclenché cet apaisement chez toi et cette assurance?
Je vois se réaliser les promesses que Dieu avait faites à son peuple. J'ai vu que Dieu avait plusieurs facettes, Père, Fils, Esprit et même Mère.
Tu as l'air sereine.
Oui, je le suis vraiment. Tu te rends compte, Noémie? J'ai porté cet enfant, j'ai vu grandir, éclore, mourir pour renaître et devenir le frère d'une multitude. J'ai participé à l'œuvre de Dieu. Mais que vois-je là-bas? Ce n'est pas la halle du marché?
Oui, elle a été refaite à neuf et à l'identique.
La croix soutient toujours la charpente?
Eh oui.
Tu vois, Noémie, cette trouvaille de Jésus, la croix, pour soutenir cette belle et grande charpente, était en quelque sorte une des clés de son futur parcours.
Merci encore Jean-Yves pour ce texte magnifique qu'il nous a composé. Et j'invite encore à repenser, à le repasser dans votre tête, ce que Marie a pu vivre au moment du sacrifice de Jésus, en chantant « Quand j'ai vu tes mains ». J'ai vu tes mains qui étendaient malade. Quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'âmes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'âmes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux plein de pleurs de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'âmes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'âmes,
Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour.
Je vais vous lire l'institution de la scène dans Marc 14, les versets 22 à 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant : Prenez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit : Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au Mont des Oliviers.
Ce sont nos mains qui ont préparé la table, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Prenez sa main et gardez-le comme compagnon de toute votre route. Il a les paroles qui font vivre. Au centre, les gobelets violets pour le jus de raisin. Si vous voulez la coupe, faites signe.
Seigneur Jésus, merci parce que ta mort à la croix, parce que ta grâce, c'est la charpente de ma vie. Merci parce que cette grâce me tient dans ma condition d'intranquille. Merci pour ton amour pour nous. Amen. J'invite le groupe Louange à me rejoindre.
Pour l'instant de louange, je vous invite à rester assis ou à vous lever comme vous le préférez. Et j'aimerais qu'on se rappelle le message de Denise sur Marie, sur ces moments de tranquillité qu'on peut avoir dans notre vie, et se rappeler qu'on a Jésus comme point cardinal, comme ancre dans nos vies, qui est là. Son nom, il est plus haut, son nom, il est plus grand que toute autre chose sur terre, et que c'est à lui qu'on peut se raccrocher si à un moment dans notre vie, on se trouve dans cette intranquillité.
J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent en toute chose. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as racheté. Cet espoir est une encre pour mon âme. Il n'est pas là, et notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as racheté. Cet espoir est une encre pour mon âme. Il est bon là, et notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, cet espoir est une encre pour mon âme. Il m'est bon là, et notre Dieu. Ton nom est plus grand, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Ton nom est plus grand. Tu nous as racheté. Cet espoir est une encre pour mon âme. Il n'est bon là, et notre Dieu. Dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu as tant de nous révéler ta tendresse et de nous convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité qui sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix.
Je vous invite à rechanter plusieurs couplets alors qu'on fait passer l'offrande de Magnifique est le Seigneur.
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a remarqué, moi si humble et si petit, sa servante il a comblé. Alléluia. Du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, alléluia. Il nourrit les affamés et le riche et le repu. Il les renvoie les mains vides. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia.
Magnifique.
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia.
Seigneur, merci parce que maintenant on peut redonner une petite partie de ce que tu nous offres, mais que je prie pour que cette offrande puisse être une grande partie de ton œuvre. Amen. J'invite Joanne Lerech à me rejoindre pour les annonces.
Merci. Je prends juste la parole pour au sujet de Florence. Elle a fait, donc elle est hospitalisée, elle a fait dans la nuit de jeudi à vendredi une fibrillation cardiaque. Et vendredi après-midi, il a fallu la transporter d'urgence à l'hôpital. Alors, on a vu le médecin hier après-midi. Le médecin nous a dit, c'est sérieux, mais c'est pas grave. Alors, l'explication, je vous la donne pas, vous la choisirez vous-même. Mais non, je crois que c'est quand même un message réconfortant. Alors, les médecins cherchent maintenant le médicament, les médicaments adaptés à la situation et leur dosage, bien sûr, ce qui fait que Florence fait quelques jours d'hôpital. Et au début de la semaine prochaine, elle pourra certainement rentrer à la maison. Voilà. Si quelqu'un veut l'appeler, j'ai son numéro de Natel pour lui dire bonjour, ce sera apprécié.
J'aimerais juste prier pour Florence et Charles Abel. Notre Dieu, notre Père, nous prions ensemble pour Florence en te demandant de la visiter, de la renouveler, de la fortifier. Merci de garder Charles Abel dans la paix, s'il te plaît. Nous te prions dans ta bonté de rétablir bientôt Florence, de créer les circonstances autour d'elle dans l'équipe médicale pour qu'un traitement bien adapté soit trouvé et lui convienne. Nous remettons nos amis à ta grâce. Amen.
Merci. Alors, pour les annonces, à 17h aujourd'hui, nous avons le concert psalmodie ici. Je donnerai quelques indications supplémentaires à la fin des annonces, sinon vous risquez d'oublier. Ensuite, mardi, la prière communautaire ici à 20h15. Mercredi 18, notre dernière rencontre du conseil à 20h pour 2019. Ensuite, dimanche prochain, culte de Noël en famille, ici à 10h. Il y a pour le groupe de jeunes, alors là peut-être que je laisse la parole à Lauriane.
Bonjour, c'est encore moi. Merci à toutes les personnes qui nous ont déjà apporté de la nourriture pour notre camp, donc vous pouvez encore en apporter jusqu'à la semaine prochaine. Si vous voulez, il me semble qu'il reste quelques petits papiers à l'extérieur. Et puis aussi, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont commandé des calendriers. Donc on avait fait un calendrier photo. Et puis Nicolas nous les a imprimés, donc merci beaucoup Nicolas. Du coup, je serai tout à l'heure à la sortie pour les personnes qui m'en ont commandé. Voilà, vous pourrez venir les récupérer et puis les payer pour ceux qui n'ont pas encore payé. Merci beaucoup.
Merci. Je rappelle encore l'action de Noël de la FRAE pour des projets, un pour le projet au Sénégal et puis des projets en France, dont deux de nos envoyés, Jean-Marc et Martine Pillou et puis Flavien et Annette Negrini. Vous trouvez ces bulletins, ces informations directement sur la partie panneau d'information à l'entrée. Maintenant, pour le concert de psalmodie qui a lieu à 17h ce soir, nous avons besoin encore de quelques aides. Et là, il faut s'adresser à Claire-Lise Serex pour venir l'aider. Parce qu'à la suite du concert, il y aura un petit moment de collation, vin chaud et autres éléments pour être dans cette ambiance de Noël avec les parfums de Noël. Donc, entre 16h et 17h, il y a un temps de préparation. Elle a besoin d'un coup de main à ce moment-là. Et puis aussi, après le spectacle, donc ça sera aux alentours de 18h30, pour toute la partie service pour la collation. Et puis aussi, la partie remise en état
rangement de la cuisine et du foyer. Nous avons aussi besoin d'aide pour le rangement de la salle, parce que Psalmody va démonter toute son installation et pouvoir remettre les deux, trois choses en place. Maintenant, en ce qui concerne juste l'instant présent, au moment où vous allez sortir, on a besoin de faire de la place pour qu'ils puissent s'installer, parce qu'ils ont un grand temps d'installation, plus des répétitions. Alors, nous avons besoin de la part de chacun, dans la mesure de vos possibilités physiques, de regrouper toutes les chaises dans ce secteur-ci, faire des piles de 10, et les ramener ici pour laisser la place pour l'installation. J'ai besoin aussi de quelques personnes pour qu'on puisse libérer la scène, puisqu'on va utiliser la scène comme podium pour mettre des chaises. Donc il y aura des chaises au balcon, au mezzanine. Alors c'est un concert gratuit, donc elles ne seront pas plus chères. Mais ceux qui seront sur la scène auront de la chance de voir un peu plus haut les choses. Donc j'ai besoin de tout de suite de votre aide pour pouvoir déplacer les chaises à la fin du culte, les regrouper ici pour libérer vraiment tout cet espace-là. Et puis quelques personnes pour libérer deux, trois éléments qu'on doit pouvoir glisser sur le côté. Donc pour ces éléments de scène ici, vous venez vers moi pour le coup de main.
Oui. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Merci encore à tous ceux qui sont déjà venus au stand pour nous aider. Et le dernier stand sera de Noël, donc sera jeudi 19, donc ce jeudi qui vient. Et bien entendu, tout le monde, tous ceux qui ont désir passer déjà pour nous voir ou bien pour nous aider un petit peu, sont les bienvenus. Merci.
Le stand qui est dans les rues basses. Voilà.
Voilà, on arrive au terme de ce culte. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Durant cette semaine, le temps va rouler et se dérouler. Et je souhaite que vous puissiez vous arrêter, reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il ne nous laisse pas seuls dans notre intranquillité, il nous accompagne. Et s'il y a des petits cailloux dans vos chaussures cette semaine, rappelez-vous que le Seigneur peut vous donner la paix, la vraie, celle qui vient uniquement de lui. Bon dimanche à chacun et chacune.